Tsugi. Tsugi Radio. Tsugi Radio. Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
Il n'y a pas que la trance, la techno à 160 BPM et la house, il y a aussi l'électro. Mais attention, je ne parle pas du mot utilisé à toutes les sauces, je parle de l'électro, un genre qui repose sur l'utilisation d'un instrument mythique des musiques électroniques, la TR-808, qui nous renvoie forcément aux pionniers de la techno de Détroit, Drexia, Juan Atkins, mais aussi à Kraftwerk. C'est en pensant à tout cet héritage que mon invité du jour a abordé la production de son premier album. Son nom, c'est Uncle Von, et on le connaît bien parce que c'est un ancien résident de Tsugi Radio qui accueillait dans son Electric Mansion une variété d'artistes tous plus passionnants les unes que les autres. L'histoire d'Uncle Von, c'est aussi celle d'une rencontre avec l'allemand Boys Noise, véritable partenaire artistique qu'il a signé sur son label. Après plusieurs tournées en Amérique du Sud et du Nord, Uncle Von sort vendredi son premier album, Unique, mais ça s'écrit UN1C, un album où il explore ses sons fétiches avec plusieurs featuring de très bonne tenue. Uncle Von en mix exclusif à la fin de cette émission, mais d'abord explorons avec lui l'univers de son premier album. Uncle Von est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes.
Beat it up.
Back Secured featuring Maral, c'est le premier extrait de cet album d'Uncle Von qui sortira vendredi. Il a été notre résident avec son Electric Mansion pendant presque deux saisons et il est là en face de moi aujourd'hui. Salut Uncle Von.
Salut, merci de me recevoir.
Bienvenue sur Tsugi Radio, où tu es un peu chez toi hein, quand même, on peut
merci
le dire.
Gentil. Merci beaucoup.
Donc ce premier album sort vendredi, il s'appelle Unique. C'est quand tu te retournes un petit peu dans le rétroviseur, voilà tes débuts à Astro en 2018, etc.
Ouais,
ta rencontre avec Boys Noize, dans quel état tu es là, à quelques jours de la sortie de cet album?
Bah écoute, je suis super excité, parce que ça fait un an que je bosse dessus, enfin un peu plus d'un an que j'ai bossé dessus. Et ouais, je pense que c'est comme tout projet, quand tu bosses dessus à fond, t'as juste envie de le montrer à tout le monde. Donc là, c'est enfin le moment, donc j'ai trop hâte.
C'était dès le début un objectif de faire un album. La question se pose aujourd'hui, tu vois, même dans la pop, où Alain Chamfort dit qu'il fera plus d'album, ça sert plus à rien, mais qu'il va continuer à sortir de la musique.
Ouais.
Dans la techno, la question s'est toujours posée, techno et musique électronique. Toi, c'était un format que tu avais envie d'explorer dès le début?
Ouais, carrément. En fait, je trouve ça super intéressant, parce qu'avec un album, on peut proposer vraiment tout le spectre, enfin, j'ai pu proposer tout le spectre que j'aime dans la musique électronique, parce que quand tu fais un EP de 3 à 4 titres, c'est souvent axé, par exemple, pour les clubs, etc. Et là, dans l'album, j'ai pu explorer d'autres univers, donc j'ai pu montrer, en fait, tout le spectre que j'aime dedans. Et l'album, en fait, ça s'est fait... En fait, Boys Noize m'a dit de ça il y a un an et demi. Il m'a dit, écoute, je pense que c'est le moment de sortir ton premier album.
It's album time, comme
voilà,
dirait
Total. Donc du coup, il m'a proposé, il m'a dit, let's go, on peut commencer l'album, c'est parti. Après plusieurs EP, du coup, chez lui. Donc moi, j'étais forcément super chaud. J'avais ça en tête depuis longtemps, mais je voulais attendre le bon moment. Et je pense que c'était le bon moment parce que, du coup, après plusieurs EP, j'ai eu le temps de faire ma main, etc. Et de vraiment... montrer mon univers, de vraiment montrer ce que je veux exactement dans la musique électronique. Donc là, c'était vraiment pile le moment où bosser cet album, donc c'est parfait. Là, je suis trop content, j'ai super hâte.
Ton univers, et on l'entend particulièrement sur le morceau qu'on vient d'écouter, c'est l'électro. Et attention, pas l'électro qui est devenu le mot valise.
Exactement.
Qu'on est bien obligé d'employer parce que c'est quand même pratique. Mais peut-être rappeler pour les auditeurs ce que c'est l'électro et surtout toi, comment tu vois ce genre que tu explores à travers ce disque.
Alors oui, effectivement, tu as bien fait de le préciser parce que quand on dit électro, la plupart des gens pensent à un truc super large, donc c'est électronique, ça va des trucs même EDM, etc. Mais non, en tout cas, moi, l'électro dont je parle et dont je fais la musique, c'est l'électro qui vient de Détroit, donc dans les années 90, donc qui a été amené par des groupes comme Underground Resistance, qui était aussi techno et aussi électro, comme Doppler Effect aussi, bien sûr. Et donc oui, c'est vraiment du coup un genre qui est axé, donc c'est l'électro plus industriel, donc c'est des rythmes assez froids, souvent, pour l'électro. Moi, ce que je fais, c'est de la musique surtout très breakée, donc breakée et électro. Et donc oui, effectivement, tu fais bien de préciser parce que quand on dit à des gens je fais l'électro, eux, c'est super large, donc on peut pas leur en vouloir parce que ça fait des années qu'on dit que le terme électro, mais moi en tout cas l'électro dont je parle, c'est cet électro inspiré par la scène de Détroit dans les années 90 qui a été aussi bien sûr développé ailleurs ensuite, mais même quand on remonte un peu plus loin, quand on peut écouter Kraftwerk par exemple, c'était vraiment le tout début, donc c'était dans les années 70 il me semble, 80 le tout début,
fin 60 même
tu vois, et donc là on pouvait déjà parler d'électro comme moi j'entends aujourd'hui, donc c'est des rythmes super robotiques et moi je suis très très fan de ça en fait. Et ça me plaît à fond, des rythmes bien mécaniques, robotiques, et moi c'est quelque chose qui me parle.
Tu es DJ, producteur, on reviendra sur aussi ton côté DJ. Là tu reviens d'une tournée en Amérique du Sud et du Nord, aux États-Unis,
ouais,
Canada,
carrément.
Etc. Avec notamment pas mal de live, hein, de prestations live. Ça a toujours été pareil, un endroit que tu as voulu investir, le champ du live, machine, sur scène.
Carrément, en fait le live ça m'a toujours intéressé, donc avant je faisais juste des DJ sets et ensuite comme je produis énormément, c'est à dire que il y a vraiment, c'est très rare qu'il y ait un jour où j'ouvre pas Ableton ou j'allume pas les machines, ce que j'adore produire, et le fait de jouer en live c'est un bon challenge je trouve, parce que tu confrontes ta musique directement au public, et moi c'est un challenge que j'aime, ça me donne une adrénaline en plus, et ouais non, j'adore ça, moi le live c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, parce que pour moi c'est vraiment le moyen de présenter sa musique au public, donc un DJ set forcément tu peux jouer tes morceaux, mais avoir vraiment la musique au bout des doigts, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui m'excite le plus quoi.
Cet album il s'appelle Unique, ça s'écrit en lettres capitales et il y a un un à la place du
ouais, i. Exactement.
Qu'est-ce qui l'incarne ce titre?
Alors unique en fait. Donc déjà avec le 1, c'est pour le côté un petit peu mécanique, mathématique, un peu physique de trouver le mot en fait quand on le regarde. Donc ça tu sais pas si c'est un code ou quoi que ce soit. Mmh. Et donc c'est vraiment pour se rappeler ce côté un peu informatique, mécanique. Et donc unique, c'est aussi un mot un peu transparent, c'est-à-dire que je voulais vraiment proposer mon univers, donc quelque chose d'unique. Et je pense que j'ai, enfin, en tout cas, réussi à montrer ce que j'avais envie de montrer via cet album. Enfin, vraiment quelque chose d'unique. Je voulais pas copier qui que ce soit. Je voulais montrer mon univers, enfin, l'univers Uncle Vaughn.
La cover de cet album, c'est un drapeau qui ouais, est inspiré du drapeau européen, très détourné parce qu'il est noir et il y a des espèces de petits logos autour. Qu'est-ce que c'est, Uncle Vaughn?
Exactement. Et ben, en fait, si tu veux, c'est que tous ces logos que tu vois en rond, et ils correspondent à chacun des tracks de l'album. Mmh. Et donc du coup, en fait, ce côté logo, et ben ça rappelle une espèce de code. Mmh. En fait, c'est qu'avec tous ces logos, ça rassemble l'ensemble qui est le code de Unique, l'album. Mmh. Et donc pour chaque logo que tu vois, en fait, il s'est associé à un morceau. Donc c'est vraiment pour continuer dans ce truc super robotique.
Mais il y a un peu aussi l'idée de la République d'Uncle Vaughn ou le pays de cocagne d'Uncle Vaughn.
Alors République, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vraiment montrer que ouais, voilà. C'est ça, c'est je plante mon drapeau, je plante mon univers et j'essaye de rassembler tout ça sur l'album, quoi. C'est vraiment pour avoir vraiment un truc voilà, c'est assez impactant, je trouve. Quand on voit le drapeau, on a vraiment enfin l'impression de quelque chose de voilà, de vraiment très très impactant. Enfin, en tout cas,
Je dis ça parce qu'il y a un EP précédent où tu avais donc cette cover
avec la caméra,
une caméra de vidéosurveillance
en
facecam. Il y a aussi ce qu'incarne un peu les gens dont tu parles, Underground Resistance évidemment, mais aussi Drexia, etc. Ouais. Un rapport aussi à politique, à ce que c'est que l'underground, à ce que c'est que l'expression de la marge, à ce que c'est que l'expression d'une culture alternative. Mm-hmm. Il y a une dimension politique très très forte. Pour toi, il y a une dimension politique à la musique que tu pratiques?
Alors oui, je pense d'un côté, parce que je pense que désormais la musique est politique aussi, on va pas se mentir. Et moi, ce que je voulais montrer, donc c'est avec donc cette caméra, donc ces côtés super surveillance. Donc en plus, quand j'ai sorti cette EP là, il y avait de plus en plus, c'était le moment où on voyait le développement de plus en plus de caméras surveillance partout dans le monde, dont je voyais aussi, j'ai l'exemple en Chine, où ils ont une espèce de radar où ils peuvent fliquer les gens de A à Z.
Donc, on va voir ce qui se passe pendant les JO à ce niveau-là d'ailleurs.
Exactement, ouais, c'est clair. Et voilà, en fait, moi j'aime bien tout ce côté justement super visuel, encore une fois robotique, j'emploie ce terme beaucoup, mais c'est vraiment le cas. Et donc, avec cette caméra, tu pouvais avoir ce côté un peu robotique, informatique à fond. Ensuite, sur le pied d'après, une main de robot, donc qui correspond aussi à cet univers-là. Et ce nouveau drapeau aussi, qui représente un peu le monde, mais toujours à côté super froid, avec vous pourrez voir sur la cover, donc c'est vraiment un univers super froid avec du métal un peu partout. Donc c'est vraiment quelque chose de très froid. Moi, en tout cas, j'aime bien tout cet univers visuel, ça me parle beaucoup, parce que moi, je veux vraiment mettre en avant du coup la musique et le visuel, sans me mettre en avant moi. Et c'est ce que vous pouvez voir par exemple si vous me suivez, c'est que on voit très peu mon visage, etc. Parce que je mets en avant ma musique et tout l'aspect visuel qui est autour. J'ai vraiment envie de créer un univers en fait autour de ma musique, et ma musique soit mise en avant au lieu de moi en fait, moi Lucas. Et c'est vraiment ma musique, donc j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur ma musique, tous les visuels, et que voilà.
Ce qui est aussi une manière de en rendre hommage, ou continuer le chemin des pionniers, voilà, Kraftwerk qui sont jamais mis en avant trop, lors de nos grandes résistances non plus.
Exactement, ouais, complètement. Moi, je suis vraiment très très fan de cet univers-là, et ouais, non, c'est ça. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur l'histoire de nos grandes résistances, j'ai lu un bouquin, il me semble, qui s'appelle History of Detroit, et qui parle justement de tout l'univers de Underground Resistance, les premières soirées, comment ils voyaient le monde de la musique, et je trouve ça super intéressant. Et c'est une sorte d'héritage, entre guillemets, que j'ai envie de continuer dans du mieux que je peux, en tout cas, à l'avenir.
Sur cet album d'Uncle Vaughn qui sort vendredi prochain, il y a évidemment un morceau avec Boys Noize. On va l'écouter tout de suite et continuer à bavarder avec toi.
temporaire, merde.
Uncle Von avec son patron Voice Noise en featuring sur ce titre extrait donc de Unique, le premier album d'Uncle Von qui sort vendredi. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette relation avec Voice Noise qui est, on le connaît pas mal à Tsugi, elle a fait plusieurs couvertures du magazine, c'est évidemment l'homme à la tête de Voice Noise Records, un garçon qui est capable de faire un remix de Feist en la rendant encore plus addictive qu'elle n'était au départ, et un garçon qui travaille avec des rostas comme SC Propki et d'autres. Et qui a toujours gardé ce lien très fort avec justement tout ce dont on parle, la culture alternative, l'électro, etc. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez développé votre relation professionnelle et artistique tous les deux ?
Alors, on s'est rencontrés donc il y a déjà quelques années. Moi, je lui avais envoyé justement des tracks parce que j'avais joué avec un autre artiste de Voice Noise à une soirée en fait où je jouais. Et à la fin de mon DJ set, j'avais joué quelques tracks à moi. Et cet artiste, du coup, qui s'appelle Deepmash, du coup, jouait juste après moi. Il a entendu mes tracks et il m'a fait c'est quoi ces morceaux ? Et je lui dis c'est moi, un peu timide, j'étais pas encore sûr de ma musique, etc. Et il m'a dit écoute, faut que t'envoies ça à Voice Noise, je suis sûr que ça va lui plaire. Et moi, je lui dis t'es sûr, etc. Et au final, il me fait oui. Donc, il m'a filé son mail. J'ai envoyé les tracks à Voice Noise. Enfin, j'ai attendu 8 mois quand même. J'ai continué à bosser des tracks et je lui ai envoyé ensuite. Et suite à ça, il m'a répondu en mode « Bah écoute, c'est trop bien ce que tu fais, est-ce que t'as d'autres tracks de côté ?» Donc j'en ai envoyé d'autres. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, après, j'ai signé mon premier EP. On a commencé à jouer ensemble. On s'est vu de plus en plus. Et suite à ça, on a construit une relation qui est super cool. Moi, je le considère vraiment comme un grand frère maintenant. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est super attentif, hyper humain. Donc c'est un bosseur, vraiment un bosseur de ouf. Mais il a toujours ce côté humain qui est super agréable, super à l'écoute, etc. Donc c'est vraiment, je suis super content de pouvoir bosser avec lui. Parce que moi, quand j'étais plus petit, j'écoutais Voice Noise et je m'imaginais pas pouvoir bosser avec lui un jour. Donc je suis vraiment super content et super reconnaissant de pouvoir bosser avec lui maintenant. Et du coup, de finaliser, entre guillemets, finaliser... En bossant justement un morceau avec lui, enfin qui s'appelle Space Seed et qui sortira sur l'album. Donc je suis trop content de ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment en tout cas un super gars. Je suis trop content.
Qu'est-ce qu'il te donne comme conseil pour ta musique ?
Alors en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il me laisse carte blanche. C'est-à-dire que quand il a pris mon projet, il l'a pris en entier. Donc il va pas me donner de consignes en me disant tu dois faire ce genre de musique, ce type d'électro, etc. Il me laisse carte blanche. Moi, ce qui peut me donner comme conseil, c'est par exemple d'utiliser certaines voix. Il me propose de par exemple de collaborer avec des gens, etc. Donc moi quand j'ai une question, il sera toujours là pour répondre. Mais le plus important, c'est qu'il me laisse carte blanche. Et ça, c'est vraiment bien parce que maintenant, je sais qu'il y a des patrons de labels qui drivent un peu les artistes pour qu'ils soient un petit peu, qu'ils correspondent à certaines traînes, que tout se passe bien, etc. Donc non, là, c'est vraiment l'inverse avec Boys Noize, c'est-à-dire que il me laisse vraiment une liberté, et c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire que j'ai vraiment full liberté et je me sens vraiment bien justement à bosser avec lui grâce à ça. C'est-à-dire qu'il respecte ma musique et quand il a pris mon projet, c'était en entier. C'était pas, bon, écoute, je te prends, mais je vais driver à 100% ta carrière, quoi. Donc non, il me donne des conseils, même un peu, même pas sur la vie, ce serait un peu gros de dire ça, mais par exemple sur comment fonctionne la vie d'artiste, etc. Par exemple quand j'ai à tourner beaucoup, par exemple pour mes premières tournées, etc. Moi je lui ai posé la question, moi je suis KO là, comment tu fais pour continuer? Il m'a dit juste il faut bien dormir, etc. Et enfin bref, c'est des petits conseils comme ça, mais qui sont super importants en fait. Donc non, c'est cool.
Ouais, mixer, tourner, c'est un métier, hein. C'est pas voilà. C'est
ouais comme, ouais carrément. Comme,
dans le dernier Tsugi, hein, qui y a une grosse enquête sur la drogue, l'alcool et DJ, où il y a Molly qui dit est-ce que vous prenez une vodka tonique, un rail de coke avant d'aller bosser? Bah non, nous non plus en fait.
Exactement, non, c'est ça. Bon après on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de choses qui tournent, etc., que ce soit drogue, alcool. Et moi, je sais que je me suis écarté de ça pour justement pouvoir être lucide à 100% sur ma musique. Et je pense que c'est super important parce que si tu cumules la fatigue, drogue, alcool, je sais pas comment tu peux t'en sortir. Je pense que ta carrière, au bout de 10 ans, tu finis dans un fauteuil, quoi. Donc non, je pense qu'il faut garder un rythme de vie assez sain. Donc même structuré, mais c'est compliqué, mais au moins bien dormir la semaine et faire des activités la semaine pour pouvoir jouer le week-end, etc. Mais c'est super important parce que sinon, tu t'en sors pas, je pense.
Justement aussi, ce que tu incarnes, ce que Boys Noize incarne et d'autres, c'est aussi une certaine intégrité, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas des valeurs fortes dans le milieu de la musique électronique et de la musique en général, c'est-à-dire voilà une sincérité artistique, comme tu viens de le dire, voilà chaque DJ set, chaque live, chaque sortie est importante, elle n'est pas là pour faire du reach sur Instagram ou cumuler des streams, mais là pour raconter quelque chose d'honnête et de sincère, et en même temps le monde des musiques électroniques il a quand même pas mal changé. Il y a des DJ stars, il y a des cachets avec beaucoup de zéros. Il y a les réseaux sociaux qui twistent un peu tout. Comment c'est facile quand on est un jeune artiste encore en train de d'affirmer un univers, etc. De se faire une place là dans ce monde là.
Alors je pense que c'est sûr que ça peut être compliqué, mais je pense que plus qu'on propose quelque chose d'unique et de vraiment qui ressemble à soi, on n'a pas besoin de copier tous les systèmes actuels, même si on sait que maintenant c'est un peu régi par TikTok, Instagram, les Reels, etc. Moi je sais que je n'ai pas TikTok et je ne vois pas l'utilité, même si je la comprends, mais en tout cas pour mon projet, non. Et j'ai espoir justement qu'on se focus vraiment sur la musique au lieu du contenu, et de faire par exemple publier 1000 vidéos de drop pendant des soirées qui durent 10 secondes juste pour nourrir le feed Insta, ça m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment envie qu'on se focus sur la musique à 100%.
Et pour autant, c'est aussi un espace de création, les réseaux sociaux.
Complètement.
Comme tu parlais de... On parlait de la pochette avant le dernier track, de définir un visuel, définir un univers, pardon, les visuels, ils y contribuent beaucoup aussi.
Complètement, ouais, non, c'est sûr. Alors moi, vraiment, sur le côté artistique, je comprends à 100%. C'est un moyen super de pouvoir promouvoir son art, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que il faut se focus sur son art et peut-être moins sur sa personne. Et ça qui manque peut-être aujourd'hui, je trouve. Et par contre, c'est un super outil, par exemple, que ce soit Instagram ou TikTok, pour promouvoir des visuels, musique, etc. Mais j'aimerais bien qu'on arrive qu'on retourne à quelque chose de plus pur, c'est-à-dire la musique avant tout, quoi. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, chacun a sa façon de faire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se focus vraiment que sur la musique et qu'on soit plus obligé de suivre les règles Insta, TikTok, c'est-à-dire publier tout le temps, même des choses qui sont, pour moi en tout cas, inintéressantes. Par exemple, vous ne me verrez pas en train de prendre un selfie en disant « Oh là là, mon train est retardé, mon avion est retardé, stop, c'est bon, enfin il y a des choses bien plus graves dans la vie, etc. que ça, quoi. » Donc ouais, non, il faut vraiment prendre du recul là-dessus, je pense, et vraiment se retourner à quelque chose d'essentiel, donc c'est-à-dire la musique.
Tu commences à avoir une image, une vision du public d'Uncle Von?
Alors ouais, bah en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je tourne à l'étranger, ça doit faire deux ans. mais je rencontre de plus en plus de personnes qui suivent la musique et je trouve ça top. En fait, c'est des gens qui sont vraiment fans de musique électro, break, etc. Et je sais qu'en France, c'est un peu moins le cas. Mmh. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je tourne plus à l'étranger qu'en France. Mais par exemple, quand j'étais à Toronto, j'ai rencontré du coup des gens après avoir joué qui m'ont dit qu'ils avaient fait une heure et demie, deux heures de route pour venir me voir. Et moi, j'étais super touché parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait ça que pour des superstars en fait. Et moi, je suis pas du tout une superstar. Donc du coup, je suis vraiment content qu'il y ait vraiment des passionnés du coup qui se déplacent pour me voir jouer. Je trouve ça super super touchant. Et ouais, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le public que j'ai en tout cas ressemble, enfin en tout cas ce que j'ai envie de proposer à la musique que je propose, et c'est pas un public qui est super dans le montrer, dans l'artifice, dans le flex ou quoi que ce soit. C'est juste des gens qui sont là pour la musique, et ça je trouve ça trop bien. Donc j'ai vraiment affaire à des, en tout cas à des passionnés quand ils viennent me voir et quand on discute après, et je trouve ça trop bien. Enfin je suis super content, ouais.
Alors tu as parlé de Toronto, il y a Toronto, puis un gros lac, et puis ouais, de l'autre côté il y a une ville
qui s'appelle Détroit, non,
qui s'appelle Détroit,
ouais.
Évidemment, le premier choix d'Uncle Von pour se raconter. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, Drexia, c'était aussi un jeu sur les formats. Par exemple, ce morceau qui s'appelle Porno Actress dure 2 minutes, hein, comme un titre de punk. Mais il y a aussi des morceaux qui durent 10, 12 minutes, etc.
Ouais,
jouer avec les formats, c'est un truc qui te plaît, toi aussi, Uncle Von?
Ouais, complètement. Eh bien, dans l'album, justement, on aura des morceaux qui durent 2 minutes. Comme plus longtemps, et je pense que ce qui est important en tout cas dans ma musique, c'est dire que je vais pas faire durer un morceau 4 minutes si en 3 minutes j'ai raconté ce que je voulais raconter. J'ai vraiment envie de garder la dynamique, et en tout cas moi quand je fais de la musique, c'est pour que la musique elle soit écoutée de A à Z, et que ça reste dynamique, énergique, et ce que j'ai... Enfin en tout cas, qu'on se fasse pas chier tout simplement.
Il n'y a peut-être pas besoin de faire 31 titres comme Taylor Swift.
Exactement. Exactement, 31 titres, non c'est trop.
Ouais, puis c'est marrant parce qu'en réécoutant Drexia aussi, et tes deux autres choix vont un peu dans la même vibration, mais il y a aussi, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ta musique, c'est aussi un truc à l'économie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire 10 minutes si en 3 minutes ça marche, et il n'y a pas besoin de mettre 140 pistes dans Live ou dans Pro Tools si
ouais,
avec 8 pistes ça marche, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça. En fait, moi j'aime bien quand la musique il y a de l'espace à l'intérieur, et quand ce soit agréable à écouter. Donc j'ai pas envie de rajouter 10 000 pistes pour rajouter 10 000 FX ou voix, que ce soit surchargé. J'ai vraiment envie que la musique soit agréable à écouter, et si j'arrive à faire un morceau en utilisant que, je sais pas, allez, 4-5 pistes, et que le morceau me plaît, bah let's go. En fait, c'est parce que j'ai réussi à faire, c'est un peu less is more, mais c'est ça, quoi. Non, c'est vrai que c'est intéressant.
Alors dans l'histoire des musiques électroniques, c'est vrai que le voyage qu'on va faire, le vol qu'on va prendre, là on le fait très très souvent,
ouais,
direction l'Allemagne avec évidemment Kraftwerk.
Ouais.
It's your hand to compute.
Kraftwerk sur la Tsugi Radio, choix d'Uncle Von. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kraftwerk encore?
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kraftwerk? Je pense tellement de choses. C'est... Moi, je trouve ça ouf que dans les années 69, comme disait 70, quand tu regardes des vidéos d'archives et quand ils commencent à jouer dans des salles, des clubs et qu'ils jouent de la musique électro, électronique, les gens ne comprennent pas ce que c'est ces rythmes. Il y a une vidéo d'archives qui est super intéressante là-dessus. Et moi, je trouve ça ouf à quel point ils étaient justement en avance sur la musique. Et c'était dans les années 70, donc si tu fais les calculs, on est 50 ans plus tard, c'est ça. Et cette musique n'a pas vieilli, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve ça, c'est une musique pour moi intemporelle. Et ils ont ce côté justement super robotique dont je m'inspire, et ce côté visuel qui est vraiment marquant aussi. Donc il y aura tellement de choses à dire sur Kraftwerk. Non,
c'est... Ouais, et puis il y a aussi quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que voilà, nous on a grandi en France avec Jacques Martin, Michel Drucker et une certaine vision de la musique, et par exemple en Allemagne, chez le Jacques Martin ou le Michel Drucker allemand, les Kraftwerk dès les années 70, ils passaient à la télé. Donc en fait, il y a aussi une habitude de l'écoute de ces musiques. Le public allemand a été éduqué à la musique électronique très tôt, quoi,
bien plus que nous, et c'est sûr, complètement. Et moi, je trouve ça super intéressant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a, par exemple, peut-être 20 ans, ils étaient super en avant sur la scène européenne, sur toute la scène club, et culture musique électronique, c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être justement cette ouverture d'esprit que peut-être nous, on avait moins, justement en France, donc peut-être pour ça aussi, même si on avait aussi des différents pionniers, comme Jean-Michel Jarre, par exemple, aussi, mais bon. C'est vrai que c'était pas les plus mis en avant, quoi, c'est sûr.
Après, il y en avait plein d'autres. Il y a quand même, on a quand même été une terre de création et d'expérimentation, avec aussi, bien sûr, tout le GRM qui fait partie de l'INA. Mais il y a jamais eu cette médiatisation populaire qu'il y a pu y avoir en Allemagne, quoi.
Non, complètement. Ouais, non, c'est sûr. Après, je ne sais pas de quoi c'est dû. Est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit, je ne sais pas encore, est-ce qu'il fallait rentrer dans les codes, etc. Et que justement, ce côté un peu musique électronique, un peu underground, un peu sauvage, était un peu mal vu sur la voie publique, quoi.
Ouais. Mais tu le sens, toi, aujourd'hui, en tant que... Enfin, je suis un peu plus âgé que toi et je vois bien que c'est encore compliqué. Les musiques électroniques ont bientôt 40 ans, 50 ans si on inclut Kraftwerk.
Ouais.
Et on voit bien que elles ont encore mauvaise presse. On parle encore trop souvent de drogue et pas assez de musique.
Ouais,
on parle encore. Il y a encore des free parties qui sont interdites. Il y a, c'est pas un métier. Il y a quand même tout ça, ça passe encore. Alors que voilà, maintenant les artistes électroniques sont parfois tête d'affiche dans des festivals mainstream, etc.
Ouais,
il y a cette ambivalence en France, hein, quand même, par rapport aux musiques électroniques.
Ouais, c'est sûr. Alors, je pense qu'en 2024, maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est un vrai métier, que ce soit dans le DJ, producteur, etc. Il y a quand même plus de mise en lumière là-dessus. Donc, c'est ça que c'est quand même super intéressant. Et pour le côté rave, peu importe ce que l'État dira, que c'est interdit, que c'est mal vu ou pas, ça existera toujours. Il y aura toujours des gens pour défendre ce mouvement. Donc, je m'inquiète pas là-dessus. Après, oui, comme je te dis, je pense qu'en 2024, il y a quand même plus d'ouverture là-dessus. Peut-être par le biais des réseaux sociaux aussi. Parce qu'on les voit un peu plus et on se rend compte que DJ, c'est pas genre prendre de la drogue, faire alcool, etc. Non, c'est vraiment un vrai métier. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit des vidéos en studio, les gens pensent que quand on est DJ ou producteur, on est juste à toucher des jogs, enfin des platines, etc. Mais non, il y a un vrai travail en studio et je pense que les gens commencent à comprendre ça.
Oui, et puis en plus, on voit aussi que les musiques électroniques ont infusé absolument tous les pans de la création, que toutes les musiques, voilà, je blaguais sur Taylor Swift ou les grandes stars de la pop qui de toute façon ont appris des codes de production électronique, comme le rap, comme toutes ces musiques.
Complètement, ouais, non, c'est sûr. Et même maintenant,
juste pour finir, et sur les musiques de films aussi, on le voit par exemple au César, de plus en plus de compositeurs issus des scènes de musique électronique ou de compositrices, en l'occurrence pour Irène Dresel, en 2023, sont récompensés pour le travail, Rhône et d'autres.
Ouais, bien sûr. Non, je pense que maintenant il y a un vrai pont qui s'est fait, que ce soit avec la musique électronique, pop, rap, même si le lien avec la musique électronique et le rap s'est fait déjà il y a très très longtemps. On pouvait parler
même dès le début, les mêmes platines.
Hein. Sur les mêmes platines, donc dans les années 90 c'était pareil. Et même après, il y a d'autres courants qui ont été dérivés. Par exemple, si je pars de la Miami Bass, c'est un courant entre le musique break, électro et le côté un peu rap, parce qu'il y avait des vrais lyrics, etc. Donc c'était un bon mélange des deux. Et ça, c'était dans les années 90-2000, quelque chose comme ça. Donc ouais, non, ça s'est fait depuis un bon moment. Mais je pense que maintenant, il y a vraiment un pont qui s'est fait entre tous les genres. Donc je pense que non, maintenant la musique électronique est bien mise en avant et je pense que c'est tant mieux.
Voilà, bon, ça, il y a que les victoires de la musique qui s'en sont pas rendu compte, mais on va sans doute créer les victoires de Tsugi et comme ça on en parlera plus.
Ce serait une bonne idée, ce serait une super idée.
La platine de Tsugi Radio, Luc a amené tranquillement Underground Resistance. Pareil, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur Underground Resistance et la grande, c'est comme s'ils avaient posé aussi les bases théoriques et politiques d'un mouvement artistique, quoi. C'est un peu ça, quand même.
Ouais, c'est ça. On peut que les remercier aujourd'hui parce que dans les années 90, c'est eux qui ont été là pour lancer le mouvement. Ils étaient là, ils galéraient comme des gens en France à faire leurs premières rêves, etc. C'était mal vu. Donc, fallait qu'ils se démerdent pour trouver des lieux pour proposer leur musique. Et non, je trouve ça ouf, là, que c'était, Mad Max. Mike, Jeff Mills et Derek May, il me semble.
Et Kevin Sanderson
et je trouve ça assez ouf. Donc on peut encore les remercier aujourd'hui, parce que peu importe ce que disait l'État ou peu importe ce que disait qui que ce soit, ils voulaient défendre leur mouvement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Il faut aussi garder ça en tête. Il faut continuer aujourd'hui à défendre ce mouvement parce que ça a été créé pour une certaine raison. C'est pour défendre une musique, une politique, et maintenant c'est à nous de continuer ça.
Et puis cette musique, elle est née, ils ont écouté Kraftwerk, Jeff Mills, dans son émission de radio qui s'appelait The Wizard, et il avait été un des premiers à diffuser Kraftwerk sur les ondes de la radio américaine. Mais au-delà de ça, cette musique, elle est aussi née dans une ville qui était en proie à une désindustrialisation, à un chômage de masse, à la montée de la violence, etc. Ouais, et cette musique, elle raconte aussi ça. Elle raconte un pan de l'histoire ouvrière, politique, sociologique d'une ville. Ça, c'est que quand on est 30 années en arrière, qu'on vient d'une ville de province comme c'est ton cas en France, etc. Est-ce que on sent le poids de cette histoire, en tout cas l'origine de cette musique qui vient de là aussi, quoi?
Ouais, complètement. On peut le ressentir complètement. Et moi, ce côté un peu classe ouvrière, etc., moi c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi aussi. Donc c'est quelque chose qui me parle, et les valeurs qui défendent, justement, moi je pense que ça me parle comme à beaucoup d'autres aussi. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre cette histoire. Et on n'aura pas le temps d'en parler énormément, mais je vous conseille d'aller vous renseigner sur l'histoire de Détroit et de cette musique qui a été lancée à cette époque-là. C'est super intéressant.
Maintenant on commence à avoir des livres, des documentaires, et puis il y a même un musée à Détroit maintenant. Ils ont du temps, mais ils ont fini par faire un musée.
C'est pour dire à quel point c'est important dans l'histoire. Non, c'est clair, c'est sûr.
Alors, est-ce que la frontière finale, la final frontier, c'est la musique, la politique, l'espace ou quoi? La question est toujours ouverte.
C'est clair, complètement. Final frontier, on verra jusqu'où ça va. Mais c'est vrai que quand tu parles de l'espace, moi je m'inspire aussi beaucoup de ça dans ma musique, en fait. Et c'est ça qui est, moi je trouve ça tellement fascinant, en fait. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans cette musique là, dans la musique électro, on peut ressentir ce côté un petit peu futuriste. Et moi, c'est toujours ce que j'essaie de défendre, parce que faut savoir qu'en Underground Resistance, ils proposaient une musique déjà futuriste à l'époque. Et donc maintenant, moi, j'ai envie de continuer ça, de pousser encore les choses encore plus loin. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien pousser encore plus les frontières, comme tu disais, de la musique. Moi, j'aimerais bien, dans quelques années, pouvoir arriver avec certaines fréquences à faire réagir le corps humain, par exemple. Et donc, je pense que c'est encore des années de recherche, mais par certaines fréquences, faire réagir le corps humain. Après, c'est une question d'éthique aussi. Est-ce que les gens seront prêts à faire ça en allant dans des concerts? Mais ça peut être une expérience. Mais je pense que la musique, il y a encore tellement de choses à explorer. On est loin, loin, loin d'en voir le bout. On verra jamais le bout. Mais je pense qu'il faut toujours rechercher, aller plus loin, en fait, pour découvrir ce qu'on peut apporter.
On va se quitter, Uncle Von, avec un autre extrait de l'album, un dernier extrait où tu invites une rappeuse ukrainienne qui s'appelle Alina Pash.
Exactement.
Et alors c'est un morceau qui est marrant, qui est un peu à part sur l'album, il s'appelle Haiki.
Voilà,
de par son flow et même de par certaines sonorités que tu vas chercher, on a un petit clin d'œil, évidemment au rap, mais aussi au reggaeton, tout en restant dans cette base électro.
carrément.
Voilà, en fait... pour résumer un peu ce morceau, mais ouais. Et puis on reste aussi dans quelque chose de politique aujourd'hui, ouais. Accueillir, inviter un ou une artiste ukrainien. Mmh,
bien sûr. Ouais.
Aujourd'hui, ça raconte quelque chose de très fort, quoi.
Exactement. Alors déjà pour en venir à ta première phrase, j'écoute beaucoup de rap, donc c'était important pour moi de l'utiliser dans ce spectre de l'album, tout en gardant ma touche côté super électronique. Et oui, effectivement, Aline Pache est une artiste ukrainienne qui est maintenant du coup basée à Los Angeles et qui justement par son histoire et par les événements récents, défend son pays aussi grâce à sa musique, et moi je trouve ça beau. Et c'est une super artiste, donc c'est une artiste pop de base qui fait aussi des choses folk. Elle a un univers vraiment super intéressant, donc je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Et effectivement, sur ce morceau-là, on a essayé de rassembler nos deux univers ensemble sur le morceau Haike.
Et on va l'écouter pour se dire au revoir. Merci beaucoup, Uncle Von.
Merci beaucoup à toi, c'était super, merci beaucoup.
Et je vous rappelle que cet album sort vendredi, c'est ton premier, et il s'appelle Unique. Ce sera pour la dernière fois ton premier album, hein, tu le sais. Hein.
Exactement, c'est ça, je suis prêt, let's go.
Allez, c'est parti. Les couleurs de l'électro avec Uncle Von, même jusqu'au reggaeton, comme c'était le cas sur ce Haike avec Alina Pache en featuring. Uncle Von, ce sera, le 17 mai au Détroit Festival, le 15 juin au Parc O'Tyson Festival, et puis le 28 au Docks Art. Et puis il y aura plein d'autres dates, évidemment. Le garçon tourne beaucoup avec son live, notamment. Mais pour le moment, c'est un DJ set qu'il nous propose, qu'il a préparé rien que pour nous. Un DJ set d'Uncle Von, comme à la grande époque d'Electric Mansion, sa résidence sur notre antenne. Allez, bisous, à demain.